Après le départ des mages, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et reviens au pays d'Israël, car ils sont morts. » Ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et rentra au pays d'Israël. Mais apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. On va vous distribuer tranquillement une petite feuille sur laquelle il y a quelques extraits de la lettre du pape François sur la famille, puisque nous célébrons aujourd'hui la fête de la Sainte Famille. Ce serait intéressant d'aller regarder ce que le pape a pu dire dans cette lettre tout à fait récente qu'il nous a offerte. Auparavant, peut-être, on peut regarder l'évangile qu'on vient d'entendre, le regarder de plus près, et constater comment Joseph, le père de famille, le père de la Sainte Famille, est quelqu'un qui est tout à fait sensible à la conduite par les impulsions qui viennent de Dieu. Il est à l'écoute de la volonté du Père concernant cet enfant qui lui est confié, le Messie, Jésus. Et voici donc que Joseph va être guidé par le mode des songes, on nous le dit trois fois ici dans ce passage de l'Évangile, ça a été son charisme propre, c'est pas tout le monde qui est guidé par des songes, sinon ça se saurait. D'ailleurs, quand il y en a qui disent qu'ils le sont, il faudrait quand même regarder de plus près, parce que ça peut être une illusion. Mais voilà, en ce qui concerne Joseph, il était guidé d'en haut, et donc il a rapidement, après le passage des mages, fui vers l'Égypte et ils sont restés plusieurs années en Égypte en tant qu'émigrés. Ils ont vécu ainsi cette pauvreté du déplacement. Et puis, quelques années plus tard, donc peut-être que l'enfant Jésus avait 4 ans, 5 ans, on n'en sait rien. En tout cas, ils sont revenus au pays d'Israël, et non pas à Bethléem où était né Jésus, mais à Nazareth, là où il était vécu. C'est pour ça que lorsque, à l'âge de 30 ans, Jésus apparaîtra et se prétendra le Messie, on lui opposera les prophéties qui disent qu'il doit naître à Bethléem, alors que lui, il aura vécu à Nazareth pendant 25 ans. Et donc, on dira, mais de Nazareth, que peut-il sortir de bon, de ce trou perdu ? Et pourtant, Jésus est bien né à Bethléem, mais très rapidement, il est parti, et d'abord a vécu en Égypte, puis à Nazareth. En tout cas, l'importance de la place du Père, ici, dans cet évangile, l'importance pour le Père de se mettre en état de disponibilité, d'écoute de la volonté de Dieu, pour pouvoir servir la famille, qui est vraiment le joyau qui est donné par Dieu pour construire la société humaine. Et ce joyau donné par Dieu à la création, nous nous appliquons en ce moment dans nos pays occidentaux et plus largement dans le monde entier à le déconstruire de façon très spécifique, très précise, à le dépecer. L'année 2013, de ce point de vue, aura été une année en France assez affreuse parce que, précisément, on est en train d'essayer de couper la famille de toute référence biblique, de toute référence chrétienne, et de toute référence de tradition pour se projeter dans un futur où l'on veut que la famille soit tout à fait différente et autre chose. C'est une réalité qui est grave. Il faut que nous en ayons conscience parce que nous sommes en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis et de casser la société. On en aura les conséquences dans les années qui viennent, dans les dizaines d'années qui viennent. On en aura des conséquences extrêmement graves. Je passe sur cette question et donc j'en viens au regard sur la petite feuille que vous avez avec vous. J'ai cherché rapidement dans la lettre du pape François ce qu'il disait sur la famille. Et il nous dit au numéro 66, par exemple, que la famille traverse une crise culturelle profonde, comme toutes les communautés et les liens sociaux. Dans le cas de la famille, la fragilité des liens devient particulièrement grave parce qu'il s'agit de la cellule fondamentale de la société, du lieu où l'on apprend à vivre ensemble dans la différence et à appartenir aux autres, où les parents transmettent la foi aux enfants. Le mariage tend à être vu comme une simple forme de gratification affective qui peut se constituer de n'importe quelle façon et se modifier selon la sensibilité de chacun. Mais la contribution indispensable du mariage à la société dépasse le niveau de l'émotivité et des nécessités contingentes du couple. Comme l'enseignent les évêques français, elle ne naît pas du sentiment amoureux, par définition éphémère, mais de la profondeur de l'engagement pris par les époux qui acceptent d'entrer dans une union de vie totale. Voilà un premier paragraphe où le pape François constate donc cette crise culturelle profonde qui affecte la famille. Un deuxième paragraphe concerne la paroisse. Il parle de la famille à propos de la paroisse pour nous dire que la paroisse n'est pas une structure caduque, elle a une grande plasticité, elle peut prendre des formes très diverses qui demandent la docilité et la créativité missionnaire du pasteur et de la communauté, même si certainement elle n'est pas l'unique institution évangélisatrice, elle est capable de se réformer, de s'adapter constamment, et elle continuera à être l'Église elle-même qui vit au milieu des maisons de ses fils et de ses filles. Cela suppose que réellement elle soit au contact avec les familles. C'est important comme perspective, la paroisse doit être au contact avec les familles et avec la vie du peuple, qu'elle ne devienne pas une structure prolixe séparée des gens ou d'un groupe d'élus qui se regardent le nombril, qui se regardent eux-mêmes. La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, lieu de l'écoute de la parole, de la croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de l'annonce, de la charité généreuse, de l'adoration, de la célébration. Je doute très personnellement. La paroisse, c'est un lieu où on reçoit et où on donne. Vous êtes tous plus ou moins en contact avec la paroisse, votre paroisse, celle-ci ou une autre, mais un jour ou l'autre, vous êtes en contact avec la paroisse, ne serait-ce que pour une sépulture, comme certains d'entre vous viennent de le vivre. Et la paroisse est un lieu où l'on reçoit, mais un lieu où l'on donne aussi. Il doit y avoir à la fois le fait de recevoir et de donner. Et le grand drame de la paroisse, c'est que beaucoup reçoivent et vraiment très très peu donnent. Si bien qu'il y a un déséquilibre profond actuellement dans la vie de la paroisse, au sens où il y a un petit nombre qui s'épuise à donner et à maintenir en vie la paroisse, tandis qu'il y a un très grand nombre qui se contente béatement de recevoir et puis ne sont jamais donateurs, en quelque sorte. Écoutez cela, c'est important. On en reparlera le dimanche 30 mars. Je vous invite à réserver cette journée, le dimanche 30 mars, pour une journée paroissiale qui se tiendra à la Milesse et que l'équipe d'animation pastorale est en train de préparer. Le troisième paragraphe où le pape François parle de la paroisse est aussi très important. Il nous dit que s'est produite dans certaines régions du monde une désertification spirituelle, fruit du projet de sociétés qui veulent se construire sans Dieu ou qui détruisent leurs racines chrétiennes. Là, le monde chrétien devient stérile et s'épuise comme une terre surexploitée qui se transforme en sable. Dans d'autres pays, la violente résistance au christianisme oblige les chrétiens à vivre leur foi presque en cachette, dans le pays qu'ils aiment. C'est une autre forme très douloureuse de désert. Même sa propre famille ou son propre milieu de travail peuvent être cet environnement aride où on doit conserver la foi et chercher à la répandre. Même la famille peut être un lieu où l'on se sent isolé et où on cherche à conserver sa foi, mais aussi à la répandre, même sa propre famille, même son milieu de travail. Et le pape François ne porte pas un regard négatif sur cet aspect, mais positif. Il nous dit, c'est justement à partir de l'expérience de ce désert, de ce vide, que nous pouvons découvrir de nouveau la joie de croire, son importance vitale pour nous, les hommes et les femmes. Dans le désert, on redécouvre la valeur de ce qui est essentiel pour vivre. Ainsi, dans le monde contemporain, les signes de la soif de Dieu, du sens ultime de la vie, sont innombrables, bien que souvent exprimés de façon implicite ou négative. Et dans le désert, il faut surtout des personnes de foi, qui, par l'exemple de leur vie, montrent le chemin vers la terre promise et ainsi tiennent en éveil l'espérance. C'est une longue citation de Benoît XVI. Dans tous les cas, en pareille circonstance, nous sommes appelés à être des personnes en fort pour donner à boire aux autres. Tiens, c'est bien ça. Voilà un titre qu'on ne s'était pas encore donné. Êtes-vous une personne en fort ? Une personne en fort. Parfois, l'enfant se transforme en une lourde croix. C'est justement sur la croix que le Seigneur transpercé s'est donné à nous comme source d'eau vive. Ne nous laissons pas voler l'espérance. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font l'expérience que essayer de transmettre un peu de foi dans sa propre famille, à ses enfants, à ses petits-enfants, de témoigner de sa foi, c'est quelque chose qui peut devenir à certains moments, d'une part difficile bien sûr, mais douloureux également. En ce sens, le pape François disait que l'enfort se transforme en une croix lourde à porter. Mais nous ne devons pas renoncer à l'espérance, nous ne devons pas renoncer à cette mission qui est celle de tout baptiser. Il n'y a pas de baptisé honoraire ou émérite, il n'y a que des baptisés missionnaires. Tout baptisé doit être missionnaire, ou alors il ne vit pas comme un baptisé. Mais un baptisé doit témoigner, doit rayonner de sa foi autour de lui. Demandons que nos familles soient le lieu de transmission de la lumière, de la foi.